voix nue. Cette semaine, Joël Gaillot rencontre André Dussolier. Ce soir, scène de la vie collective.
Bonsoir André Dussolier.
Bonsoir.
Nous avons évoqué avec vous la Haute-Savoie où vous êtes né. Nous avons parlé de cet art de la métamorphose qui est votre ADN, de l'instant et de la durée, deux axes entre lesquels l'acteur que vous êtes jongle. J'aimerais que nous évoquions aujourd'hui les scènes de vie collective. Alors, vie collective des artistes sur la scène des théâtres, bien sûr, et vie collective des familles d'acteurs au cinéma. Je parle des tribus qu'on se choisit ou qui vous cooptent, de la fraternité qui en découle. Nous allons évidemment évoquer Alain René, cinéaste avec qui vous avez tourné 7 films. Étienne Chatillez, que vous avez retrouvé en 2019 pour un deuxième Tanguy. Sabine Azéma, votre partenaire privilégié. On pourrait aussi citer d'autres artistes avec qui vous avez une familiarité de travail, Jean-Michel Ribes, Colline Serrault, Pascal Thomas. Et puis enfin, il y a la première bande, votre génération, celle qui, sortie du conservatoire au début des années 70, a propulsé dans le métier vous-même, Jean-François Balmer, Jacques Villeray, Nathalie Baye ou encore Isabelle Adjani. Comment est-ce qu'on parvient à rester soi et à ne pas se dissoudre dans un tableau d'ensemble? Qu'est-ce qui fait que sur la photo de groupe, André Dussolier se détache? Je voudrais donc qu'on démarre avec cette génération de comédiens qui apparaît dans les années 70. Vous sortez du conservatoire André Dussolier en 1972 avec un premier prix de comédie obtenu ex aequo avec Francis Perrin. Nous sommes 4 ans après mai 68 dans une France qui, en 1974, basculera de Pompidou à Giscard d'Estaing. De quelle manière cette bande d'acteurs dont vous êtes était-elle ou n'était-elle pas d'ailleurs peut-être le reflet, le produit de ce moment de la société française?
J'ai constaté à ce moment-là qu'il y avait pas mal de gens qui venaient de la province, qu'on était une génération qui était née après la guerre, qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Je pense à Jacques Villeray qui venait de Tours, vous avez cité Jean-François Balmer qui venait de Suisse, bon, et puis les uns les autres, on s'est retrouvés là avec des gens nés à Paris, je me souviens de Richard Berry, d'autres. Il y avait toute une génération avec des profils tout à fait différents. Et alors, ce qui est curieux, c'est parce que vous l'avez dit en introduction, on est tous allés vers des carrières solitaires, parce que c'est un petit peu, je sais pas... ça qu'on avait envie de faire, et c'est vers ça d'ailleurs que nous entraînait le conservatoire. Il y avait des concours, c'était vraiment pendant, ça se déroulait pendant 3 jours, enfin, puis bon, on avait quand même des exemples de en province. Moi, j'avais les exemples de gens qui étaient sortis du conservatoire. Je me souviens parfaitement de Michel Duchossois, de ses concours, et puis aussi de la carrière des acteurs qu'on pouvait voir à travers des films. Donc on était naturellement, on n'avait pas tellement la notion de troupe. Pourtant, c'est vraiment, et je rejoins ce que vous dites, et c'est ce dont vous me faites prendre conscience, c'est que mon grand plaisir, c'est de travailler avec les autres. Et au sein même d'une troupe, ce qui était un peu le cas, à la fois au conservatoire, parce que c'était vraiment là, c'était un terreau vraiment très fertile, où on travaillait les scènes avec des acteurs d'emploi très différents, comme on disait, au conservatoire, et puis aussi après avec René ou avec les metteurs en scène que vous avez cités. Et c'est toujours agréable de les retrouver, et être dans une troupe, ça veut dire à la fois que c'est un confort, parce que on se connaît et on sait qui est l'autre et comment il travaille, etc. Puis en même temps, c'est un inconfort parce que il faut toujours se surprendre.
Mais lorsque en 1972 vous jouez avec François Truffaut, on a déjà parlé de ce film Une belle fille comme moi, c'est le moment où Bertrand Blier tourne Les valseuses. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, il y avait des acteurs post-68-art, type Devers et Depardieu, qui étaient dans Les valseuses? Et puis vous et cette bande dont on vient de parler, qui était d'une autre nature, d'une autre trempe, qui véhiculait autre chose comme image, André Dussolier?
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, alors là, qu'on connaît bien le parcours de Depardieu, Devers, Depardieu encore davantage, parce qu'il en a souvent parlé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait, nous, notre bande à nous, qui était allée au conservatoire, une culture plus classique, quoi. C'était vraiment...
Et vous d'autant plus, qui aviez une maîtrise de lettres et de linguistique.
Oui, alors j'étais mal...
Qui aviez ces études derrière vous.
C'est vrai, mais alors quelqu'un qui a fait des études, c'est un peu louche quand on arrive au conservatoire.
C'est vrai,
oui, c'est mal perçu. Parce que ça fait tout d'un coup celui qui va réfléchir, qui va intellectualiser les choses. Alors pas du tout, mon plaisir c'était de jouer, de vivre, pas. Mais je veux dire que la connaissance de la littérature ou la réflexion, ça enlève pas forcément quelque chose à la vie qu'on peut donner à un personnage. Au contraire, ça peut l'enrichir. Moi c'est mon point de vue. Des acteurs, il y a ceux, alors les extrêmes, c'était Depardieu qui lui-même raconte son parcours, son culture et qui a fait sa culture et qui a grandi en rencontrant des auteurs, Duras ou d'autres.
Comme
et
vous.
Qui, voilà, oui,
comme vous, vous avez aussi travaillé
vrai,
avec
c'est
Duras.
C'est vrai. Alors, je ne sais pas qui en a plus bénéficié finalement, parce que lui, je pense à Depardieu par exemple, il a appris avec les autres, il a grandi avec les autres, il n'avait pas... Moi, parce que les études, franchement, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, mais qui peut aussi corseter quoi, un peu, ou qui peut rendre un peu plus pesant, ou qui étouffe un peu, moi c'est ce que j'ai toujours ressenti durant ma scolarité, qui étouffe l'initiative personnelle et la liberté personnelle. Et j'avais l'impression, même un peu naïve et candide, que lorsque je lisais Camus ou un auteur comme ça, j'avais l'impression qu'il n'avait pas fait de rature de la première à la dernière ligne, quoi, que c'était le génie de l'auteur qui faisait qu'il écrivait des... Alors que c'est un vrai travail. Un jour, je travaille avec Nathalie Sarraute, je ne peux pas m'empêcher de raconter cette anecdote, elle qui mettait à peu près 5 ans à écrire chaque livre. Et donc, elle me dit, on jouait pour un oui ou pour un non avec Jean-Louis Trintignant, mis en scène par Jacques Doyon pour la télévision. Et elle me dit, j'ai relu, parce qu'elle savait que j'avais enregistré Proust. Elle dit, j'ai vu que Proust avait réécrit 15 fois le premier chapitre de À la recherche du temps perdu. Et elle dit, elle qui mettait 5 ans pour écrire chaque livre, elle dit, je suis allé à la Bibliothèque nationale et j'ai relu les 15 versions de Proust, de son premier chapitre. Et franchement, je me serais arrêté à la 6e. Et donc, je trouvais ça très touchant. Et c'est à la 15e version que Proust a trouvé cette première phrase, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », qui était la première phrase de la recherche. Parce que justement, c'est le travail de littérature qui est vu comme un travail artisanal, quoi, qui fait que il y avait les paperolles de Proust qui travaillaient sans arrêt, qui rajoutaient. Donc c'était un travail d'artisan, mais quand on suit un cursus universitaire ou secondaire avec des études, on a l'impression que... Alors on est privé un petit peu de cette liberté qu'on peut avoir, qu'avait un Depardieu, qui était peut-être sans culture, il le dit lui-même, mais qui a fait sa culture en comme un autodidacte. Et j'en ai rencontré pas mal d'autodidactes. René en est un, Lucchini en est un aussi. Et donc, enfin, je les considère comme des autodidactes parce qu'ils ont quitté l'école très tôt. Et donc, du coup, ils ont une liberté ou un appétit des textes. Lucchini en est un exemple frappant. Et René est aussi par la diversité de la curiosité qu'il avait pour aborder tel ou tel sujet, parce que sa nourriture, c'était les journaux, c'était la presse, c'était les livres qu'il pouvait lire. Donc, du coup, il y a une plus grande liberté que nous qui étions dans un cursus où tout tracé, où on devait correspondre au moule dans lequel on devait rentrer pour reproduire exactement le cours qu'on avait entendu distribué par le professeur. Et ça, j'ai toujours regretté que la scolarité, que l'enseignement ne favorise pas, à l'inverse peut-être d'enseignement anglo-saxon ou américain ou suédois, je ne sais pas, mais ne favorise pas la liberté d'invention, de création chez chacun. Il y a des matières comme ça. J'ai deux enfants, donc je vois bien comment ça s'est passé.
Dantin qui fait du théâtre.
Voilà, oui. Léo. Voilà. Et ils ont commencé à faire du dessin, des choses comme ça, de la peinture, de la poterie. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête en sixième et on prend un cursus. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et dommageable vraiment de devoir pour l'avenir de ces enfants la part créatrice qui est un peu laissée dans l'ombre et qui pourrait améliorer et agrandir un peu tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'on apprend au cours des études qui est nécessaire, c'est vrai, mais qui voilà, je pense pas qu'on peut se passer de la création ou de l'originalité ou de la fantaisie de quelqu'un ou de la personnalité même. Et donc là avec ces autodidactes dont j'ai parlé, j'avais l'impression qu'ils avaient plus de liberté et que nous, c'est vrai, quand on est arrivé au conservatoire, on avait quand même une connaissance des textes qu'on avait appris en classe, donc il y avait une familiarité. Et ça nous entraînait assez naturellement vers le conservatoire, où il y avait des études à travers des scènes de théâtre classique ou de théâtre étranger, mais qu'on connaissait déjà un peu, ou bien ensuite vers la comédie française. Enfin voilà, le parcours était tout tracé. Tandis que, évidemment, Depardieu, Devers, sont arrivés comme ça et avec comment dire, même dans leur éducation, il y avait une sorte de liberté. Je sais que Depardieu a toujours dit à Blier qu'il en avait marre de le voir toujours se présenter pour jouer dans les valseuses.
Il a beaucoup tarabusté.
Et il disait ouais. Mais c'est moi avec la comment dire, la rapidité ou la brutalité, ça qu'on dit, dont on l'imagine capable d'avoir comme ça. Et donc il a fini par se laisser séduire. Ça aussi, moi, j'avais une vision de la mise en scène ou des metteurs en scène un peu comme le schéma universitaire, c'est-à-dire vraiment c'est le professeur qui nous apprend, c'est le metteur en scène qui doit tout savoir, donc il doit pas, quand on passe des auditions, quand on joue, ben il doit savoir un peu qui on est. Or ben non, le metteur en scène, il est aussi fragile qu'un acteur et il a besoin d'être séduit et convaincu par la force de persuasion que peut avoir l'acteur en question. C'est ce qui est arrivé par exemple avec Depardieu dans Les Valseuses, et c'est comme ça que Blier le raconte lui-même, il a fini par l'engager parce qu'il voyait que ça correspondait aussi à son personnage, il a été convaincu, alors que nous on avait une démarche plus classique.
Mais justement, vous, André Dussollier, est-ce que vous allez aujourd'hui quand même, fort de toute votre carrière, de votre notoriété, de votre talent, enfin je pense que de ce point de vue-là, les doutes ont dû s'alléger sur votre légitimité, votre art, la pleine possession de votre art, est-ce que vous sollicitez les metteurs en scène, parce que c'est un métier très dur, les comédiens le disent, on attend parfois que le téléphone ne sonne pas.
Oui.
Je parlais des tribus qu'on se choisit ou qui vous cooptent. Est-ce que vous, il vous est arrivé d'aller voir des metteurs en scène, leur dire « je veux travailler avec vous, prenez-moi, c'est moi qu'il faut pour le rôle » ou est-ce que justement ils viennent vous chercher, auquel cas effectivement narcissiquement c'est très agréable, mais c'est aussi l'attente derrière le téléphone. Enfin, je pense que vous n'en êtes plus là, mais vous avez depuis longtemps dépassé ce cap-là. Mais...
Oui, très tôt j'ai vu que en fait j'aimais pas les cloisons, j'aimais pas l'enfermement dont pouvaient être victimes les acteurs, et donc je trouvais que c'était bien, vu que le travail était aléatoire, de pouvoir tantôt faire du théâtre, tantôt de la télévision, ou tantôt du cinéma. Et comme ça, j'avais l'impression que je pouvais aller de l'un à l'autre et répondre aux sollicitations des uns ou des autres dans des secteurs différents. Donc du coup, j'ai eu l'impression de pas avoir eu trop de trous, si je puis dire, quoi, dans le métier. Mais je n'ai pas fait cette démarche d'aller voir un metteur en scène, ou alors très peu, quoi, vraiment, ou timidement. Pas à la façon de certains de mes camarades ou collègues, masculins ou féminins, qui eux ont une véritable pas stratégie, mais qui entreprennent en effet, qui manifestent leur envie. Et ils ont pas tort, ils manifestent leur envie. Après, moi, j'ai toujours pensé que la rencontre devait se faire à deux, quoi, comme dans la vie, et que le désir était autant du côté du metteur en scène que de l'acteur, et que vraiment le mariage devait se faire comme ça, assez naturellement. Du coup, je n'y suis pas allé, en effet, au devant, mais je me rends bien compte quand même que c'est pas mal, puisque je l'ai entendu dire par certains metteurs en scène qu'un acteur manifeste ses goûts, ses envies, qu'il manifeste aussi sa connaissance du cinéma de certains metteurs en scène. On sait bien que, alors là j'ai beaucoup d'admiration pour les metteurs en scène, c'est extrêmement difficile de faire un film, c'est à la fois un art mais c'est aussi une industrie, et souvent et de plus en plus une industrie, donc du coup pour faire des œuvres originales, même s'il y a beaucoup d'aide en France pour qu'elles existent, eh bien c'est difficile, et puis les metteurs en scène dépendent vraiment des scores et des réussites de leurs films, donc du coup c'est vrai qu'ils ont besoin d'encouragement et d'être entraînés à travers le désir des, pourquoi pas, des acteurs.
Alors il y a une question que je me suis posée, puisque vous venez d'évoquer à plusieurs reprises Alain René, c'est la suivante. Vous avez joué cette film avec Alain René, La vie est un roman, Mélo, L'amour à mort, on connaît la chanson, Cœur, Les herbes folles, et puis le dernier, qu'il a tourné juste avant de mourir, Aimer, boire et chanter. Et il y a quand même trois acteurs qui reviennent quasiment tout le temps dans ces films, c'est vous, André Dussollier, c'est Sabine Azéma et c'est Pierre Arditi. Et je me suis demandé si, au fond, le cinéma d'Alain René, quand même, sept films, ça raconte une totalité, ne se reconfigurait pas à partir de vous trois. Si vous n'étiez pas les trois pions sur l'échiquier, à partir desquels le film pouvait se bâtir. Alors, il allait chercher des auteurs différents, et d'ailleurs des dramaturges de théâtre. Mais est-ce que vous n'étiez pas, vous, les trois endroits de l'échiquier sur lesquels il pouvait construire son dispositif de cinéma?
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ça s'est cristallisé à partir de L'amour à mort, c'est-à-dire que je pense que René, je ne me souviens plus de l'âge qu'il avait à ce moment-là, mais je pense qu'il était de plus en plus pressé de réaliser des films. Il avait quelques fois...
1984, L'amour à mort.
84. Et il avait attendu longtemps, je me souviens, même 5 ans, et sans avoir pu réaliser des films à partir d'une bande dessinée de Harry Dixon. Il avait attendu longtemps et il était revenu en France, il était aux États-Unis, il faisait des conférences, des choses comme ça, mais il présentait ses films, mais il avait du mal à faire des films, quoi. Et donc, un jour, je me suis laissé raconter cette histoire par ses proches, mais il est revenu un jour à Paris, et puis Georges Samprin parlait de son projet sur Stavisky, et René a dit, ah, mais je connais très très bien Stavisky, il connaissait pas du tout Stavisky. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mmh. Par exemple, donc, quelquefois, René le disait lui-même, je ne dévoile rien de secret ou d'intime, mais il disait que quelquefois, le travail, il était réalisateur, un peu comme nous, on est acteurs, et donc il se mettait à la disposition des projets qu'on pouvait lui proposer, que certains producteurs pouvaient lui proposer, et dont on y entendait parler. Donc, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, comme c'était si difficile de faire des films, qu'il avait envie de faire, vous savez ce que sa mère lui a dit un jour, il dit, mais pourquoi tu ne fais pas des films comme les autres? Et alors, parce qu'elle s'inquiétait de voir qu'à chaque fois, il allait dans des voies un peu très originales, mais qui n'étaient pas forcément très publiques. Et donc, il a répondu à sa mère, parce que les autres les font. Et donc, il a...
Ah, c'est beau d'avoir l'esprit de répartie.
Hein. Oui, c'est beau. C'est bien. C'est beau. Et ça lui correspondait vraiment. Donc, il a toujours fait des films qu'il a eu envie de faire. Vous savez, par exemple, après L'amour à mort, il y a eu Mélo. Et voilà comment les choses peuvent partir. C'est vraiment hasardeux, quelquefois. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de L'amour à mort, il y avait des musiques qu'il avait introduites au milieu des séquences. Bon, il n'avait pas mélangé la musique aux scènes, mais c'était vraiment... Elle ponctuait les scènes. Mmh. Et il y avait des auteurs comme Berg, Schoenberg, etc., qui nous faisaient écouter souvent. Et il nous parlait aussi beaucoup de Bernstein. Et donc, un jour, après À l'amour à mort, Fanny Ardant lui dit, mais pourquoi vous faites pas un film sur ce Bernstein dont vous nous avez tant parlé? Et donc, lui, il était à ce moment-là en train de relire tout Henri Bernstein. Et donc, il n'a pas compris qu'elle lui parlait de Leonard Bernstein. Et donc, voilà comment Mélo est parti. Mais souvent, il a eu en particulier un projet, vraiment, c'est le premier projet. On a vu des artistes il n'y a pas tellement longtemps, mais lui, alors, il avait un projet de film muet, comme ça, qu'il voulait faire avec des cartons sur parce qu'il est d'origine celte, enfin, de Vannes, mais enfin, disons qu'il connaissait bien les traditions celtiques, etc. Donc, il voulait faire un film là-dessus jusqu'à la modernité d'aujourd'hui. Et donc, il voulait raconter ça dans un film muet. Et donc, il n'a pas pu le monter, il n'a pas pu le faire. Et donc, il a dû chercher à ce moment-là beaucoup des auteurs, quoi, dont il aimait beaucoup les pièces, il aimait beaucoup le théâtre. Donc, il y avait Bernstein et il y en a eu d'autres, Eggborn, vraiment, qu'il aimait beaucoup. Il allait souvent en Angleterre, il voyait ses pièces. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est, disons, servi tout de suite sur place auprès des auteurs de théâtre pour faire les films qu'il avait envie de faire. Et donc, voyant un peu les acteurs qui correspondaient aux âges des personnages, sachant qu'on s'était bien entendu, etc., ça faisait une addition de facteurs ou d'éléments ou d'arguments pour que ça aille plus vite. Et Mélo, ça, on l'a tourné en 23 jours, ça s'est fait très rapidement, on l'avait répété. Il savait aussi qu'on était tous des acteurs de théâtre, donc on était tout à fait... proche de l'envie de la troupe, déjà, entre guillemets, du travail de troupe et du travail de répétition. Donc, ils savaient qu'on était prêts à ça et qu'on pouvait faire fi des conditions salariales habituelles du cinéma et donc prendre sur notre plaisir de travailler ensemble le fait de faire le film dans les conditions les plus modestes économiquement. Donc voilà, c'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu la troupe. Et donc, du coup, comme ça avait bien marché avec Mélo, après, ça a continué et vous avez cité les films, mais je me souviens, bon ben voilà, il y a eu Eggborn, il y a eu d'autres auteurs que j'oublie, je ne sais plus, enfin c'était surtout ces deux-là, mais je ne sais plus, enfin moi, à chaque fois c'était vraiment une possibilité, il y avait tout d'un coup un temps de gagner pour lui avec les acteurs qu'il connaissait, et nous on était contents parce que, y compris sur Les Herbes Folles, c'est le titre que je cherchais à l'instant, eh bien, c'était un roman sur lequel il était tombé, ça lui plaisait beaucoup. Et donc là, tout d'un coup, ça a été vite adapté, et parce qu'il avait qu'à suivre un peu la trame du récit dans le roman. Et donc, du coup, il a fait ce film. Et là, là, c'était une expérience qui illustre un peu ce que je disais à propos de la troupe, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, j'avais un rôle qui n'avait rien à voir avec les personnages précédents. Moi, de temps en temps, j'ai commencé par jouer l'amant, dans Mélo, puis ensuite, enfin c'était Pierre, c'était les rôles étaient bien définis. Pierre Arditi jouait le mari, moi je jouais l'amant, puis après, petit à petit, j'étais toujours un peu... J'avais pas un rôle comme dans Les Herbes Folles, qui était un rôle un peu bizarre, un peu étrange, un peu... Et donc, c'était pas le sujet du film, mais quand même, il apparaissait dès le départ, dès les premières images, comme un personnage un peu à part, quoi. Et donc, j'aimais beaucoup ça. Mmh. Et je me suis dit, le premier jour du tournage, mais comment vont-ils réagir? Parce que, évidemment, moi, j'amenais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. La voix était différente, le comportement, la manière un petit peu... louche du comportement de ce personnage, c'était quelque, et je me disais, mais comment ils vont réagir, ils vont pas me reconnaître, et à la fois Sabine Azéma, avec qui j'avais la première scène, et à la fois René, j'ai vu que ça fonctionnait, quoi, que ça marchait, parce que voilà, il y avait quand même cette chez eux ce plaisir de d'inventer des personnages, et donc de faire confiance aussi à ce qu'on pouvait proposer. Ça, c'était une grande qualité de René.
Qu'est-ce que c'est l'alchimie qui existe entre vous et Sabine Azéma? Parce que là, on parle des films d'Anne René, on peut aussi évoquer le Tanguy le Retour, le film d'Étienne Chatillès, où vous reprenez avec Sabine Azéma ce couple de parents absolument hors de lui, devant le fiston Éric Berger, qui 19 ans après avoir enfin quitté la maison revient parasiter la vie des parents, et vous êtes, c'est vrai, un vrai couple d'écran, de cinéma, vous et Sabine Azéma. Ça tient à quoi, cette alchimie?
Je crois que
vous avez dit qu'il se passe entre vous quelque chose de très évident sur les plateaux, ça se passe tout de suite. Vous n'avez pas besoin de mots, c'est l'entente est là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a commencé ensemble quand on était au cours Périmonie. Je lui ai même donné la réplique pour son entrée au conservatoire. Moi, j'étais là depuis deux ans, je crois.
Oui, donc vous aviez 20 ans.
Oui, on se connaissait déjà. Puis après, nos carrières ont un peu différé. Puis en plus, après, c'est René qui nous a réunis. Mais comme dit Sabine, on a des caractères très, très opposés, très différents. Il n'empêche qu'il y a des points communs qui font que tout d'un coup, sur un plateau, tout se réunit pour sentir les choses un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on aime bien la liberté, on aime bien inventer, ce que sollicitait souvent Alain René, de la part des acteurs, mais de la part de tout le monde, hein, que ce soit la maquilleuse, que ce soit l'opérateur, ou vraiment, il attendait que chacun propose des idées. Et donc, mais avec Sabine, il y avait à la fois la joie de jouer des comédies, ça c'était un peu le ciment sur lequel on avait travaillé dès le départ au conservatoire, même avec Nathalie Baye aussi, c'était notre plaisir de travailler la comédie, on aime bien ça, mais avec Sabine, ça il y a à la fois l'envie d'être vrai, mais qu'on soit vrai dans la comédie, ou enfin on est vrai dans la comédie ou vrai dans le drame, c'est pour nous c'est la même chose, quoi, et on sait que ça ressortira drôle quand si on est vrai dans la comédie.
Mais dans Tanguy, vous êtes burlesque, hein.
Oui,
vous êtes vrai, mais vous êtes aussi burlesque.
On suit la partition, quoi, évidemment. Si c'est excessif, si évidemment, on est content de pouvoir y aller, et je sais que Sabine ne se privera pas d'aller le plus loin possible, et moi aussi, et on est très preneurs. Il y a une petite scène comme ça dans le cœur, à un moment donné, où j'essaie de lui déclarer ma flamme, dans l'agence où nous travaillons tous les deux, et on fait deux, trois prises, et puis tout d'un coup, je vois qu'elle parle en Timini avec Alain René, et qu'elle est en train de... Je vois qu'ils complotent un peu tous les deux. Je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on tourne la scène, et à la fin de la scène, je reçois une gifle magistrale qui était tout à fait en situation. Hein, mais j'étais très heureux de la recevoir, parce qu'évidemment, mon personnage, ça lui faisait avoir des réactions absolument... Ça augmentait, quoi, le plaisir du jeu, de la comédie... Elle l'avait senti, et j'ai trouvé ça très bien. Enfin bon, c'était un petit exemple, mais il y en a plein auxquels on peut être très sensible, et on est sensible aux mêmes choses. On a besoin d'avoir beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités d'inventer, d'amener des choses, de pouvoir aller au plus près de ce qu'on ressent, d'être voilà, on réagit un peu de la même façon en tant qu'acteur, même si dans nos vies on a des vies qui sont très opposées. C'est une grande active, moi je peux rester des heures à regarder le plafond. Enfin on n'a pas les mêmes façons de vivre et les mêmes rythmes de vie. Mais sur un plateau, c'est vrai que tout se réunit. Alors, on s'explique quelquefois là-dessus tous les deux sur, je sais pas, est-ce qu'il y a des points communs sur l'éducation, pourtant, elle est parisienne, moi je suis provinciale, mais enfin bon, bref, disons que, mais vous savez, même avec Arditi, que je ne vois pas beaucoup et qui est, lui, dans une vie tout à fait différente, j'ai souvent coutume de dire que je l'ai plus connu en jouant à la comédie. Oui. Que dans la vie. Dans la vie, c'est un Il fait plein de facéties, il est toujours en train de plaisanter, etc. Et je n'arrive jamais à savoir, à toucher le cœur et à savoir et à l'avoir en vrai. Tandis que quand il joue, c'est ça le paradoxe du comédien, alors là, ça triche plus, il l'est. Et ça, j'ai été très ému. J'en conserve un souvenir ému des scènes de Mélo où on était tous les deux face à face et où on était dans l'émotion, puisque amoureux de la même femme que jouait Sabine, Azéma. Et donc, on était vraiment dans un rapport de vérité. Où là, j'avais l'impression de parler au vrai Pierre Arditi et réciproquement.
C'est important la séduction dans le jeu entre les Soliers, mais qu'on soit face à une femme, que ce soit Fanny Ardant avec qui vous avez joué, Nicole Garcia, Sabine Azéma, ou qu'on soit face à un homme, que ce soit Pierre Arditi ou d'autres. Et là, je pense notamment à Neil Sarastrup et vous dans Diplomatie. On a déjà parlé de ce spectacle qui est aussi un film. Vous faisiez allusion à Jean-Louis Trintignant avec qui vous étiez dans un texte de Nathalie Sarraute. C'est important de séduire son partenaire, les yeux dans les yeux, quand on est devant lui, face à la caméra ou sur les planches d'un théâtre.
Séduire, c'est pas le mot que j'emploierais.
Pourtant,
On
vous
est.
êtes séducteur, vous.
Ben, mais je sais pas. C'est vraiment. J'aimerais bien que ce soit malgré moi, même si peut-être bien qu'au tout début de ma vie, peut-être bien que je l'ai vu comme une arme entre guillemets pour peut-être oui dans mon rapport avec l'autre. J'avais besoin de le séduire pour le convaincre que d'aller plus loin quoi dans le rapport et donc peut-être que ça commençait par là par la séduction un peu factice par le jeu quoi voilà après c'était pas satisfaisant il fallait bien passer il fallait bien tomber les masques et c'est ça qui est le plus intéressant c'est quand la vérité apparaît et j'aime bien que les gens soient séduisants par leur vérité quoi par leur façon d'être et donc je dirais pas qu'en face d'un acteur, on soit dans un réflexe de séduction. On espère qu'on va bien se comprendre, qu'on va bien s'entendre. Et pourtant, on peut avoir des natures tout à fait différentes, comme avec Sabine Azéma qu'on vient d'évoquer là maintenant, ou Nils Harestrup, que je ne connaissais pas du tout, avec qui je n'avais jamais joué. Et pourtant, j'ai partagé avec lui un bonheur immense de jouer en scène parce que c'est un acteur. Mais dans Diplomatie, il était toujours d'une grande honnêteté, d'une grande. Il s'investissait énormément dans les scènes, dans les rôles. C'était vraiment. Il n'y a pas de quartier, quoi. Il ne cherchait pas à penser à lui. Enfin, moi, je l'ai jamais, jamais. On était vraiment dans le partage et dans l'envie de faire monter la scène le plus haut possible. Donc, il y avait une grande honnêteté, une grande rigueur que j'étais content de rencontrer chez lui.
Est-ce qu'il y a, ça sera notre dernière question aujourd'hui, mais on se retrouve demain, André Dussollier, est-ce qu'il y a du féminin en vous?
Je me suis jamais posé la question de façon, comment dire, précise comme ça, parce que j'ai toujours été, j'ai jamais bien compris les classifications qu'on fait quelquefois entre masculin et féminin. Souvent, j'ai entendu, y compris dans mon enfance, tout le temps, il y avait des mots des qualificatifs qu'on attribuait aux hommes, qui me paraissaient vraiment étranges, très étrangers, même très bizarres, ou les qualificatifs qu'on attribuait aux enfants, je supporte pas qu'on les appelle les mômes, les gosses, les mioches, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'était des personnes. Et de la même façon, je sais pas, les sensibilités, on peut trouver des sensibilités. Alors, c'est vraiment, je sais pas à quel moment on a commencé à parler de la féminité comme ça chez les individus, y compris chez les hommes, la part de féminité. Mais moi, j'ai toujours senti que, comment dire, il pouvait y avoir des femmes qui étaient très autoritaires, masculines, peut-être, d'une certaine façon. J'en ai rencontré, y compris dans des rapports intimes. Et d'autres qui étaient très féminines, ce à quoi je suis très sensible, et des hommes qui pouvaient avoir une sensibilité aussi. Donc, j'ai jamais été entraîné ou à voir ou à comprendre même la distinction qu'on faisait entre masculin, féminin, comme si vraiment des traits de caractère devaient appartenir à un sexe et pas à l'autre. Alors que franchement, je n'ai jamais pensé à établir ou à voir ou à sentir des frontières pareilles.
Merci beaucoup, André Dussollier. On se retrouve demain.
Volontiers.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gayot avec André Dussollier. À voix nue,
Réalisation Christine Robert. Prise de son Thibaut Nassine-Ben. Cette émission se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.